marche plus ou moins parce que c'est moi qui l'utilise. Le micro est habitué d'avoir Normand parler dedans, alors il réagit plus rapidement. Mais pour ceux qui sont nouveaux, il y a une farce ici à l'église disant que les micros ne fonctionnent jamais quand c'est moi qui les utilise. Alors, c'est plus ou moins vrai. Tout un temps béni, n'est-ce pas, avec le groupe de louanges. Et je pensais ce matin en les regardant qu'il y avait, au moins trois générations là en avant. Avec Joël et Mathieu étant une génération. Philippe, Nicolas étant une autre génération qui est là, qui joue dans le groupe de louanges. Et Louis-Jacob, qui est, je dirais, la troisième génération, si on divise les générations en 10, 15 ans. Et c'est une bénédiction de Dieu, ça. Que les jeunes s'impliquent comme cela et qu'il y ait de la place aussi pour eux de s'impliquer. On est reconnaissant pour cela. Courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ce temps de louange qui nous rappelle ta grâce, ta bonté, le prix que tu as payé pour chacun de nous. Seigneur, sois avec moi, sois avec l'Assemblée, qu'on ait un cœur calme, disposé à entendre ce que toi tu veux nous dire. Ce que moi j'ai à dire, c'est assez peu important. Parle au cœur et dirige-nous ce matin. Amen. Quand on voit un jeune homme qui a moins de 20 ans qui se promène avec une petite voiture, des fois toute rouillée, tu te demandes si ça va faire le prochain coin de rue. Il reste chez ses parents, ne paye pas de pension. Un petit travail, 10 $ l'heure peut-être, le salaire minimum. C'est pas difficile de comprendre quelle est la plus grande valeur dans sa vie. C'est d'avoir son véhicule. À côté de ce jeune homme-là, il y en a un autre qui a le même âge, qui prend l'autobus l'hiver, à l'automne, au printemps, il prend son bicycle, s'en va à l'école, arrive chez lui, étudie. On sait quelle est la priorité de ce jeune homme-là, et c'est de se préparer plus tard avec un métier, une profession. Des valeurs pas mal différentes, n'est-ce pas? Et on peut déterminer assez facilement aussi, de bien d'autres façons, qu'est-ce qui est important pour une personne. Ça m'est arrivé de regarder les budgets des gens. Et on voit assez rapidement quelle est la priorité quand on regarde les budgets des gens. Je ne parle pas seulement de l'offrande à l'Église, parce qu'il y a eu des situations où la personne aidait des gens de sa famille qui étaient en besoin. Et quelle joie de voir comment ils s'intéressaient à cela. Mais parce qu'on fait de notre temps, parce qu'on fait de notre argent, eh bien, on peut facilement déterminer qu'est-ce qui est important pour nous. Si on fait juste penser à l'importance qu'on donne à l'apparence physique, jeune homme, jeune femme, eh bien, on peut voir que l'apparence a beaucoup, beaucoup de valeur là aussi. J'écoutais un documentaire là quelques années sur la chirurgie esthétique en Californie. Et là, on pouvait voir l'emphase que les hommes et les femmes mettaient pour combattre le vieillissement. Il y en a des fois que ça revenait les chercher, parce que là, une dernière chirurgie esthétique, puis là, ils avaient manqué leur coup complètement. Alors, ça n'avait pas vraiment accompli l'objectif. Aujourd'hui, ce qui ressort comme les valeurs de la société, je dirais, c'est la prospérité, n'est-ce pas? Le statut dans la vie. Qu'est-ce que les autres qui sont importants à mes yeux pensent de moi? La santé aussi. On vend assez de vitamines, de toutes sortes de médicaments, de toutes sortes de plans de santé pour nous convaincre qu'on va mourir en santé. Mais moi, j'aimerais mourir en santé, mais je sais que je vieillis. Et j'aimerais, par exemple, que je vieillisse tout pareil ensemble. C'est pas un bras qui fonctionne moi, puis l'autre qui fonctionne. Mais ça, on me dit récemment que c'était de ma faute. Mais un autre élément, c'est certainement les plaisirs. On aime avoir du fun, surtout au Québec, on aime avoir des plaisirs. On vit dans cette société-là et on est influencé par ces choses-là. Le croyant vivant dans la société peut influencer la société et, ou bien être influencé par elle, n'est-ce pas? Et cette semaine, en particulier, je lisais dans Jérémie, chapitre 2, versets 11 et 12, ceci. Et vous pouvez tourner, ça va être bon pour vous de tourner. Alors, Jérémie, chapitre 2, les versets 11. Et l'Éternel dit, « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. » Le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel, le Dieu vivant. Et ils avaient été après les dieux des nations qui étaient autour d'eux. Et la réflexion de l'Éternel, c'est-tu possible? Ils m'ont abandonné, moi, le Dieu vivant, le Dieu créateur, et ils sont allés vers des dieux qui ne sont pas des dieux et qui sont d'aucun secours. Eh bien, tant qu'à moi, ça m'a frappé, m'indiquant comment facile c'était d'être influencé par notre société. Et si le peuple d'Israël, après avoir vu le témoignage de Dieu à l'intérieur d'eux, peuvent abandonner leur Dieu pour des dieux qui ne sont pas des dieux, et je me suis dit certainement que nous, dans notre société, on peut abandonner nos valeurs en tant que croyants pour les valeurs de notre société que je viens de mentionner, la prospérité, le statut, la santé, les plaisirs. Alors, on doit être aux aguets. Oui, on sait, Matthieu 13, 5, 13, qu'on doit être le sel de la terre. On sait que Pierre enseigne que nous devons être prêts à défendre l'espérance qui est en nous. On sait cela. Ça témoigne d'une façon de vivre, d'une conduite. Dans 1 Pierre 2, 12, il nous enseigne qu'une bonne conduite au milieu des païens peut même être une raison pour les païens de venir au Seigneur, les non-croyants de venir au Seigneur. Alors, on sait ces choses-là. Et par contre, on peut facilement laisser, abandonner nos valeurs comme croyants pour adopter celles de la société qui nous entoure. On va voir un passage dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 3 jusqu'à 12. Les deux épîtres aux Thessaloniciens sont les seuls livres, les seules épîtres où l'apôtre ne se défend pas dans un sens, dans sa salutation. Il n'a même pas besoin de dire qu'il était apôtre. Et les deux lettres nous semblent d'être une lettre qu'un père écrit à des enfants, certainement pas des enfants biologiques, mais il écrit à des enfants spirituels. On sait que c'est Paul et quelques compagnons d'œuvre qui sont allés à Thessalonique après avoir été mis en prison à Philippe, qu'ils ont prêché l'Évangile aux Thessaloniciens et qu'ensuite il y a des Juifs qui ont été jaloux, qu'ils ont chassés. Mais ils ont eu quand même suffisamment de temps pour qu'un certain nombre à Thessalonique viennent au Seigneur. Et dans la première lettre à Thessalonique, on voit comment Paul a pris soin d'eux, a travaillé nuit et jour. Comment il a agi à leur égard comme une nourrice, comme un père. Et il dit même qu'il leur a aimé donner sa vie pour les Thessaloniciens. Tout un témoignage de comment doit être un ministère dans une église. Ça a une touche très personnelle. Comme un père, il se préoccupe de la santé des Thessaloniciens. Étant séparé d'eux, il s'inquiète, il envoie Timothée. Timothée revient avec de bonnes nouvelles et Paul est au septième ciel, content de cela. Certainement qu'il y a eu d'autres nouvelles. Et là, il écrit une deuxième épître, une deuxième lettre aux Thessaloniciens. Ça a probablement été écrit dans à l'intérieur d'une seule année. Les années 48-49, il a visité la ville de Thessalonique, a prêché l'Évangile. Et dès l'année suivante, il a écrit ces deux lettres-là. Donc, à l'intérieur de 12 mois, Paul leur a écrit ces lettres. Et dans le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 3 jusqu'à 12, Paul va répondre à plusieurs questions qui, je crois, sont très pertinentes pour nous. Dans les versets 3 à 10, il va répondre à la question suivante. Quelles sont les valeurs d'un père spirituel? On est tous un père spirituel pour quelqu'un d'autre. Des fois, c'est nos enfants biologiques. Des fois, c'est un frère dans la foi. Et les valeurs d'un père spirituel, eh bien, ça s'applique à tout chrétien. Quelles sont mes valeurs en tant que croyant? Mais Paul ici, il est le père spirituel et répond à la question, quelles sont les valeurs d'un père spirituel? Au verset 11, il va répondre à quelle requête découle de ces valeurs-là? Et il va nous enseigner quel genre de requête lui fait pour les Thessaloniciens. Au verset 12, il va mentionner quel est son but ultime. Et en même temps, à la fin du verset 12, il va répondre à la question « Comment est-ce possible d'y arriver? » On ne regardera pas les quatre questions ce matin, mais je veux au moins regarder la question « Quelles sont les valeurs d'un père spirituel? » dans les versets 3 à 12. Alors, on va lire les versets 3 à 12 et ensuite, on va revenir pour commenter les différents éléments qui sont là. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. On va arrêter là. Alors, le premier sujet qu'il touche, Paul, au verset 3, c'est votre foi qui fait de grands progrès. Si vous avez différentes versions, c'est de magnifiques progrès. Des progrès qui dépassent toute attente. Des progrès au-delà de ce qu'on peut mesurer. C'est une façon de dire que c'est des progrès énormes dans la foi. Leur confiance en Dieu, dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans l'Esprit qui travaille en eux. Le désir de jouir pleinement du salut à la fin des temps. Ressortaient. Ils avaient fait de grands progrès. Ils démontraient une grande fidélité à la parole, une obéissance aux enseignements sur ce que c'est de vivre pour Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 5, Paul nous parle un peu de cela. Il est en train, c'est mieux si j'étais dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 8, 1:5, il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et l'une de ces églises-là, dans la Macédoine, certains, il y avait Philippe, il y avait Thessalonique, et peut-être qu'il faisait référence plus précisément à Thessalonique, mais on ne peut pas préciser cela, certainement que ça incluait l'église de Thessalonique. Et là, il va dire, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Je cite ça comme un exemple du progrès de foi qu'ils avaient fait. Les Thessaloniciens étaient pauvres, contrairement à ceux qui étaient à Corinthe. Malgré leur pauvreté, ils ont insisté de participer à la collecte que Paul voulait faire. Ils ont insisté. Et non seulement ont-ils donné de leur superflu, mais même de leur nécessaire. L'exemple du progrès de foi qui avait été fait. Et au verset 9 de ce même chapitre 8, il leur dit, ici il s'adresse aux Corinthiens, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Les Thessaloniciens avaient saisi cela. Ils avaient compris la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à leur égard. Et ils voulaient imiter Christ. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on voit dans Thessaloniciens comment Paul est reconnaissant à Dieu pour le progrès de la foi des Thessaloniciens. Leur foi n'était pas de vaines paroles, je crois, mais c'était une foi agissante, une foi en action qui est poussée à faire le bien, confesser le péché, à désirer se débarrasser de ce qui vient les mettre en esclavage encore au péché qui est présent dans leur vie. Ensuite, il poursuit et mentionne que l'amour qu'ils portent les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Deuxième élément pourquoi Paul est reconnaissant, c'est le grand progrès de l'amour que les Thessaloniciens ont les uns pour les autres. Don Carson faisait une remarque assez intéressante. Il disait que dans notre société, il y a plusieurs regroupements de personnes. Il peut y avoir des clubs de golf, des clubs de soccer, des clubs d'âge d'or. On me dit que chaque personne dans un club d'âge d'or doit avoir sa carte FADOC. Je ne l'ai pas encore. Mais dans chacun de ces clubs-là, il y a quelque chose qu'ils ont en commun. Ceux qui sont dans un club de soccer aiment jouer au soccer. Ceux qui sont dans un club de bridge aiment jouer au bridge. Il y a quelque chose qui les lie. Mais Carson faisait remarquer que dans l'Église, ce n'est pas le cas. T'sais, on a des riches avec les pauvres. On a des dirigeants d'entreprise avec des employés de premier niveau. On a des professionnels, des collets bleus, des gens de toute ethnie. On n'a qu'à regarder ici, dans l'Assemblée. On a des gens de tout parti politique. Il y en a qui sont des libéraux. Il y en a qui sont des conservateurs. Il y en a qui sont pour le nouveau parti démocratique. Il y en a même qui sont souverainistes. On en a de toutes sortes. On a des gens de tout âge, les plus vieux et les plus jeunes. Il y aurait suffisamment dans ce méli-mélo assez de raisons pour avoir des chicanes, des divisions, n'est-ce pas? Et pourtant, Christ nous dit que dans son Église, la marque qui doit nous distinguer, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Malgré toute cette différence-là qui existe parmi nous. C'est pour ça qu'on voit parmi nous la compassion pour ceux qui ont besoin d'aide. On a un ministère d'entraide. Mais à part le ministère d'entraide, chacun de nous, on doit avoir de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. De la compassion pour ceux qui souffrent. Un frère me disait qu'un agent d'immigration lui a dit, quand il s'en venait au Canada ou quand il était déjà arrivé, il dit, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de trouver une église. Mais je comprends cela. C'est bon que les agents d'immigration ont vu que les églises prennent soin des gens qui arrivent ici au pays. C'est bon qu'ils aient remarqué cela. Il faut se rappeler encore, même ici, dans notre assemblée, les gens qui sont arrivés, l'équipe de bienvenue qui va les voir, les gens qui leur demandent, qu'est-ce que vous avez aimé? Bien, les gens recherchent d'être remarqués, d'être pris soin, qu'on s'intéresse à eux, qu'on veut les aider à s'intégrer au pays, à l'Église, à la vie familiale de l'Assemblée. Eh bien, ce n'est pas étonnant non plus que l'amour est présent pour les Thessaloniciens. Romains 5, chapitre 5, le verset 5, dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on est dans l'Église d'enfants de Dieu, chacun de ses enfants a l'amour de Dieu qui a été répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. C'est le don que Dieu a mis dans le cœur de chaque croyant. Alors, c'est normal, disons, que l'amour fasse partie du progrès des Thessaloniciens. Et ça doit faire partie du nôtre aussi. Et on peut penser à d'autres passages dans 1 Jean qui nous rappelle l'importance de s'aimer les uns et l'autre. Même s'il n'y a pas d'amour, si le frère, se disant frère, n'a pas d'amour pour son frère, mais il dit aimer Dieu, il le traite presque comme menteur. Alors, dans ce verset 3, parle de sa reconnaissance à Dieu pour la foi et l'amour des Thessaloniciens. Mais il ne parle pas juste de la foi et de l'amour des Thessaloniciens. Il parle du progrès des Thessaloniciens dans la foi et dans l'amour. Et certainement, c'était une joie de voir les Thessaloniciens être convertis, de manifester déjà les œuvres de la foi, une foi qui est agissante, de manifester l'amour les uns pour les autres. Mais il fait bien de mentionner qu'il se réjouit du progrès qu'il voit dans cette foi et dans leur amour. Récemment, je jasais avec un frère qui œuvre dans une église de la région. Et il avait suivi un couple de nouveaux croyants. Ils avaient enseigné le maître et son disciple. Il avait fait un autre cours avec eux. Et à la fin de ces deux cours-là, il leur a dit, « Est-ce que vous aimeriez faire d'autres études? » Et le couple de répondre, « Non, je pense que je suis correct. Je pense que j'en connais assez comme c'est là. » Hey, je peux vous communiquer la tristesse. Je peux vous dire là, que le frère était vraiment triste de voir la réponse qu'il avait entendue. Mais je vois cette attitude ici. Et ce matin, autant en examinant la valeur que nous devons avoir comme croyants, en examinant les sujets de reconnaissance, je ne peux que m'empêcher d'exhorter ceux qui se disent la même chose. Et il y en a des chrétiens qui se disent, non, moi je suis rendu à un niveau de maturité qui me satisfait. Comment est-ce qu'on peut en arriver à cela? Quels passages dans les Écritures peuvent nous donner l'idée que c'est possible d'arriver à un certain niveau et se satisfaire de ce niveau-là? De s'asseoir sur nos lauriers, comme on peut dire. Est-ce que c'est possible d'être arrivé? Est-ce que c'est possible d'être assez sain maintenant? d'être assez patient, assez humble, assez rempli d'amour qu'on n'a plus besoin d'aucun progrès, d'être assez généreux que Dieu n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Est-ce possible? Mais je vois cette attitude de se satisfaire là où je suis. Je travaille avec Simbeck depuis quelques temps et je m'occupe du coaching. Et un des éléments du coaching, c'est de voir si le jeune ouvrier, la jeune ouvrière est en train de régler certains problèmes dans sa vie. On appelle ça des démarches de formation du caractère. Mais vraiment, c'est pour aider des domaines spécifiques. Si la colère est un problème, bien comment est-ce qu'on va commencer à toucher cela afin que le frère puisse devenir de plus en plus patient, de plus en plus à l'écoute. Et on a des gaps. Puis là, c'est pour développer des compétences pour le ministère. Et dans ma pensée, quand que je préparais le message, je me disais, est-ce possible que le jeune ouvrier qui est en train de faire des démarches pour la formation du caractère se dise après mes 4, mes 5, mes 10 ans, j'ai tout fait mes DFC. Maintenant, je suis arrivé. Maintenant, je suis rendu assez mature pour être un ouvrier. Mais là, je m'en vais faire certains qui ne pensent pas ça. À chaque occasion que je vais avoir de m'adresser aux jeunes ouvriers, je vais leur mentionner que les DFC ne sont pas finis. Ils ont seulement qu'arrêté de me les soumettre pour avoir des crédits. Mais ils peuvent continuer à travailler sur leur caractère. Avoir une telle attitude de dire, non, moi, je suis rendu, j'ai plus besoin de progresser, c'est travailler contre Dieu. On connaît Philippiens 1:6. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Il n'a pas dit, durant ta vie. Il n'a pas dit jusqu'à 60 ans. Il n'a pas dit jusqu'à 60. Il n'a même pas dit jusqu'à 85, pour ceux à qui ça s'applique là, ici. Là. Il n'y en a pas beaucoup, là, tu sais. Mais il n'a même pas mis une limite d'âge. Il n'a pas mis non plus une limite au niveau des fonctions que la personne a pu remplir dans l'Église ou dans l'association d'Église ou dans son séminaire. Non. Le travail de Dieu va continuer jusqu'à temps que son œuvre soit rendue parfaite pour le jour du Seigneur. Ça va être à ma mort après ça. Et c'est Dieu qui va faire le travail. C'est travailler contre Dieu, avoir une telle attitude. C'est faire obstacle au travail de l'Esprit. C'est reculer et ouvrir la porte au péché. Parce que si on recule, si on arrête de grandir en maturité, on ne peut que reculer. Et on ne peut que laisser un retour au péché auquel on était esclave même avant qu'on vienne au Seigneur. Et c'est le danger. Ceux pour lesquels on a eu une victoire, eh bien, quand on s'assoit sur ses lauriers, eh bien, on peut perdre ces victoires-là. Mais c'est surtout être orgueilleux et égoïste. Vous savez, même avec le plus grand progrès que les Thessaloniciens avaient fait dans la foi et dans l'amour, il y en avait pas mal encore à faire. Et ils n'avaient pas mérité le salut en Jésus-Christ. Ça avait été une grâce. Ça a été la première grâce, je dirais, pour les amener dans la foi, pour les amener comme des enfants de Dieu. La vie du croyant, c'est d'aller de progrès en progrès. Un signe même, je dirais un critère pour un ancien, c'est le progrès qu'il fait. Et quand on a suivi le cours sur les épîtres pastorales, on a vu les critères dans 1 Timothée chapitre 3 et ensuite dans Tite chapitre 1. Mais ensuite, Carson a mentionné certains autres éléments qui sont mentionnés là aussi. Et l'un des passages auxquels il nous a amenés, c'est 1 Timothée, chapitre 4, les versets 13 à 16. Et je dirais, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et Carson a pris ce passage-là pour mentionner que pour lui, l'une des qualifications pour un ancien, c'est qu'il progresse, qu'on peut le voir être de plus en plus de compassion pour les gens qui souffrent, de plus en plus humble, de plus en plus intègre, de plus en plus attaché aux Écritures. Mais ça veut dire que si un ancien rejoint un plateau, eh bien, ça peut même le disqualifier. Et je crois que c'est un bon point. Ça démontre à quel point d'aller de progrès en progrès, dans la foi, dans l'amour, est essentiel, nécessaire pour le croyant, mais aussi pour les dirigeants. Paul est reconnaissant du progrès des Thessaloniciens. Il ne les compare pas à d'autres. Il ne dit pas, vous dites, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant parfaite, vous êtes tous rendus à 9. Non, il y en a qui, peut-être qui viennent de venir au Seigneur, ça fait 3 mois. Mais il y a une progression. Ils ont commencé à un point, puis on voit qu'ils progressent. Il y en a d'autres qui étaient sauvés depuis plus longtemps. Mais il y a une progression. Peut-être qu'eux étaient à 5, mais on voit qu'ils progressent. La foi, l'amour progresse. La maturité progresse. Ce n'est pas une question de comparer un et l'autre, mais c'est une question que tous progressent dans la foi. Paul va souvent prier concernant le progrès des gens. Ses exhortations plus tard dans son épître vont être que les gens puissent grandir, progresser dans leur foi. Il est même bon de faire comme Paul et de partager à des frères. Ici, Paul le partage aux Thessaloniciens, les lecteurs de l'épître. Mais il est bon de partager, mettons, à un frère, qu'un autre frère ou qu'une sœur progresse dans la foi, progresse dans son amour, progresse dans le service. Il est bon d'être reconnaissant à Dieu pour le progrès que les gens font dans la foi aux oreilles de d'autres. Ça ne s'appelle pas de la médisance. On peut le faire à plein régime. On n'a pas besoin de se restreindre. Puis en même temps, quel encouragement pour le frère qui entend cela. Hey, si vous lui dites directement comme Paul le fait aux Thessaloniciens, « Mon frère, je suis reconnaissant à Dieu pour le progrès que tu fais. » Tout un encouragement. C'est tout un encouragement. Au verset 4, Paul mentionne une troisième raison pour laquelle il est reconnaissant. Et on va lire, relire ce verset 4, puis on va aller aussi jusqu'au verset 10 en le relisant. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui y auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Au verset 4, il mentionne comment il est reconnaissant parce que les Thessaloniciens ont persévéré. Au milieu, persécution, tribulation, ils ont persévéré. Et il va dire au verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Leur persévérance était une preuve que Dieu agissait dans leur vie et leur donnait la grâce de persévérer parmi les persécutions, parmi les tribulations. Et là, il va donner comme un appui à leur persévérance. Et du verset 6 au verset 10, il va mentionner comment Dieu est un juste juge. Et comment à la fin des temps, Dieu va juger les Thessaloniciens pour leur foi, pour leur amour, pour leur intégrité. Mais il va aussi condamner ceux qui troublent les Thessaloniciens, mais il ne s'arrête pas à ceux qui troublent les Thessaloniciens. Il va mentionner aussi ceux qui, un petit peu plus loin, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Alors, il encourage les Thessaloniciens de persévérer malgré la persécution, parce que Dieu est juste. Et Dieu va intervenir, pas maintenant, mais quand Dieu va revenir. Ceux qui troublaient les Thessaloniciens, eh bien, c'est écrit, il va les troubler à leur tour. Il va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et à ceux qui sont affligés, les Thessaloniciens, il va leur donner du repos. Donc, ça ne sera pas inutile. Les souffrances n'en seront pas seulement des souffrances pour un temps, mais Dieu va intervenir. Quand quelqu'un commet un crime et ne reçoit pas la condamnation que ceux qui ont été victimes du crime, il y a des manifestations. On a vu ça aux États-Unis récemment, concernant le jeune noir qui a été tué par M. Zimmerman. La cour, il y a eu des gens qui étaient qui ont porté jugement et la condamnation était que Zimmerman était acquitté d'avoir tué ce jeune noir-là. Et la population, une grande partie de la population, certainement la population noire, se sont soulevés. Mais ça ne sera pas le cas à la fin des temps. Dieu est un juste juge. Et ceux qui croient en son Fils auront le repos. Et non seulement auront le repos, mais on voit au verset un peu plus loin qu'ils seront glorifiés aussi. Ils seront élevés avec le Seigneur. Ce n'est pas le seul passage où il est clair que Dieu est un juste juge. Maintenant, pour les Thessaloniciens qui étaient des croyants, c'est une joie d'entendre cela. Et ce n'est pas juste une joie, c'était ce qui les motivait à accepter la persécution. Dans Actes 5, le verset 41, les apôtres répondent, après avoir été mis en prison, libérés, qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour Christ. Paul va en faire un sujet d'honneur. Et ici, c'est la même chose. Les Thessaloniciens ne souffrent pas pour rien. Il va y avoir un juste jugement à la fin des temps. Ils vont recevoir la couronne de gloire pour ce qu'ils vont avoir subi. Mais en même temps, on voit un genre une juste vengeance que Dieu va exercer. Et au verset 6, à la fin, il dit, « Je vais rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » C'est un élément pas mal important de savoir que on peut vivre toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'injustices, toutes sortes de persécutions. Mais Dieu est un juste juge. Il voit les situations. Il va venir à notre secours et il va nous donner la couronne de vie. Il va condamner ceux qui nous troublent. Ils avaient les yeux fixés sur le jugement dernier, lorsque Christ apparaîtra du ciel, au verset 7, et l'assurance d'être jugé digne de Dieu. Ce n'est pas qu'eux-mêmes ont mérité cela, mais c'est que Dieu va avoir travaillé dans leur vie tel qu'ils ont grandi, et on peut dire qu'ils ils vont être jugés dignes du royaume de Dieu. Dans ces versets 6 à 10, Paul affermit les Thessaloniciens dans leur persécution, en leur rappelant la justice de Dieu. Si on regarde plus complètement les deux, les croyants, les Thessaloniciens, au verset 7, c'est marqué « ceux qui sont affligés », au verset 10, c'est marqué « tous ceux qui auront cru, eh bien, ils auront du repos avec nous », et au verset 10, « le Seigneur sera glorifié en leur présence ». Et au verset 6, si on considère les non-croyants, ceux qui troublent, ceux qui affligent, eh bien, ils recevront l'affliction qu'ils ont imposée. Et au verset 8,